Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, les mille et un contes. La Commagène, cette province de la Syrie qui était bordée à l'est par l'Euphrate, fut gouvernée par des rois nommés Antiochus. Le quatrième du nom fut détrôné après 30 années de règne en 73 et passa le reste de sa vie à Rome. Racine s'est servi de ce personnage pour incarner l'amant malheureux de Bérénice. Au premier acte, Antiochus fait enfin l'aveu de son amour à la reine de Judée et s'exclame « Dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui ». Notre homme aurait été plus occupé aujourd'hui et la pauvre Bérénice, qui n'avait Dieu que pour Titus, n'aurait pas eu à subir les assiduités de ce roi déchu. Il semblerait que les princes de l'Orient aient quelques difficultés à vaincre leur ennui ou plus exactement leur tourment selon sa signification au XVIIe siècle. Souvenons-nous de l'argument des contes des mille et une nuits. Le roi de Perse, Shériar, convaincu de l'infidélité de sa femme, résolut d'en prendre une nouvelle chaque soir et de l'étrangler au matin. Scheherazade, la fille de son vizir, s'offrit pour cette union à la seule condition que sa sœur, Dinarzade, passât la nuit dans la chambre nuptiale. Au milieu de la nuit, cette dernière demanda à Scheherazade de lui raconter une histoire. Le récit intéressa si fort le roi qu'il suspendit l'exécution de sa femme pour reconnaître la suite le lendemain. La même scène se répéta indéfiniment durant les mille nuits suivantes. Scheherazade a, semble-t-il, attendu 8 siècles avant de surgir en Occident et plus particulièrement en France. Un fragment de manuscrit en arabe daté du 9e siècle, contenant un récit permettant de faire revivre la jeune princesse arabe et sa sœur Dinarzade, fut en effet découvert au Caire en 1869 dans les combles d'un cimetière. Sans la curiosité d'Antoine Galland et le goût des Français vers la fin du XVIIe siècle pour les contes, nous n'aurions sans doute jamais connu la formule magique « Sésame, ouvre-toi ». Antoine Galland fait autant figure de diplomate que de voyageur. Il eut la chance d'être envoyé en 1670 à Constantinople comme secrétaire de l'ambassadeur de France, le marquis de Noiretrelle, sous le règne de Mehmed IV. Il y retourna une seconde fois et entreprit ses travaux de recherche sur les littératures persanes, arabes et turques. Il avait d'ailleurs appris le turc et s'initia à l'archéologie. Il publia bon nombre d'essais, comme par exemple « Des origines du progrès du café » en 1699. Quant au journal d'Antoine Galland, pendant son séjour à Constantinople, il a été publié annoté par Charles Schaeffer chez Leroux en 1881. C'est en 1701 qu'il reçut un manuscrit arabe en 3 volumes, daté du XIVe siècle, qu'il avait commandé et acheté à un ami à Alep. Il avait déjà noté sous la dictée de Harana, un moine maronite d'Alep, plusieurs récits, notamment l'histoire d'Aladin et d'Ali Baba. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de manuscrit arabe de ces textes composés vraisemblablement en Égypte, puis véhiculés, copiés et récités à travers tout le Moyen-Orient. L'édition Princeps des Contes des Mille et Une Nuits, sans S à nuit, fut imprimée chez la veuve de Claude Barbin au Palais Royal, sur le second perron de la Chainechapelle de 1704 à 1717. L'ensemble forme 12 volumes, renfermant 70 contes et 280 nuits, sans illustration. Le S manquant à nuit dans le titre n'est pas une faute, car à l'époque, les chiffres étaient régis par la règle de l'accord avec le chiffre cardinal. Le titre comporte néanmoins une erreur, car selon le vœu de l'auteur, il devait être indiqué « Conte arabe choisi par M. Galland ». Or, Barbin lui a substitué cette autre formule « Conte arabe traduit par M. Galland ». Une nuance qui montre le souci de Galland de conserver l'essence même des contes, car traduire à l'époque ne signifie pas rendre avec une fidélité scrupuleuse un texte original, mais de faire une œuvre littéraire. Le texte de Galland est en effet adapté à l'esprit du XVIIIe siècle. Le premier volume est dédié à la marquise d'O, la fille de l'ambassadeur Geyerbaergh. Antoine Galland n'imaginait pas alors que son œuvre deviendrait un jour le principal point de référence de l'Europe envers l'Orient, une fascination qui traverserait 2 siècles et donnerait lieu au mouvement que l'on a appelé « orientalisme et turquerie ». Les mille et une nuits reçurent la consécration de la cour. Très vite, après la publication du dernier tome, des libraires éditeurs en province, tant à Lille, Lyon, La Rochelle, Sedan, Rouen, imprimèrent à leur tour des contes. Dès 1730, des livrets bleus aux titres alléchants comme « La lampe merveilleuse » ou « L'histoire d'Aladin »,« L'histoire du cheval enchanté » et « L'histoire d'Ali Baba » furent distribués dans les campagnes par les colporteurs. Depuis, les éditions, les traductions et les ajouts se sont multipliés. En Orient, il a fallu en revanche attendre 1804 pour que soit édité pour la première fois le texte des Mille et Nuits en arabe. Mais existent aussi les contes des Mille et Un Jours, qui parurent la première fois en 1710-1712 chez la Veuve Ricoeur en 5 volumes. Ces textes étaient, dit-on, traduits du persan par François Pédis de la Croix. Mais on n'en retrouva jamais le texte original. Il semblerait qu'Alain Le Sage, qui travaille avec Pétis, se soit abandonné dans son imagination. Ce qui donne sans doute tout son sel à ses contes, qui furent de nombreuses fois réédités, 3 fois au XVIIIe siècle, et même complétés et transformés au XIXe. En 1828, chez Dauvin, libraire éditeur apparu, parut en effet les Mille et Un Jours, contes orientaux, traduits du turc, du persan, de l'arabe, par Pétis de la Croix, Galland, Cardone, Chaouis et Cazotte, etc. Tous ces auteurs avaient disparu au moment de l'apparition de ce recueil. C'est sans doute la raison pour laquelle il fut demandé à Jacques Conan de Plancy, qui ne connaissait pas l'Orient, mais était expert en esprits et démons de toutes sortes, d'en rédiger une introduction. Dans ces Mille et Un Jours, il est question d'une princesse du royaume de Cachemire qui en fait un songe dans lequel un cerf abandonne une biche dans un piège, juge les hommes par ce cerf et est persuadé que ce sont tous des ingrats et des perfides. Afin de conjurer cette opinion, la nourrice de la belle lui raconte des histoires qui vont durer Mille et Un Jours, curieusement, au 83e, et c'est là sans doute une coïncidence, il est question d'un riche joaillier de Bagdad qui aimait le plaisir et la dépense.